un seul verset pour toute une prédication. Il faut dire que ce verset-là, qui est proposé aujourd'hui à la méditation des églises chrétiennes, ce verset-là est un concentré de l'évangile de Pâques. Sans en avoir l'air, il expose, à mon sens, l'essentiel de ce qu'il faut savoir et vivre de la résurrection des morts que nous sommes, sans la présence du Christ. L'essentiel de la foi, l'essentiel même de la mission de l'Église. Alors je vous invite à le méditer avec moi, ce verset 19, tranquillement, pas à pas, mot à mot. On va considérer d'abord, s'intéresser aux données qui situent la scène dans le temps. On va le faire dans une traduction littérale qui va défiler maintenant. Étant donc le soir. On a l'habitude de passer assez vite dans notre lecture de la Bible sur ces renseignements de temps et de lieu. Comme ça s'est passé il y a 2000 ans, on ne s'y intéresse pas. Eh bien, je crois que, surtout chez Jean, c'est une erreur. Quand Jean, l'évangéliste, nous donne l'heure, il vaut mieux être attentif. C'est pour nous situer, nous lecteurs, dans une dimension qui n'est pas que chronologique, qui est une dimension, on va dire, temporelle, symbolique. Celle du temps de la foi, le temps de la rencontre avec Dieu. Étant donc le soir. Et pourquoi ce donc ? Pourquoi ce donc ? Comme si le soir, comme si la présence de la nuit était la conséquence de quelque chose, étant donc le soir. Pourquoi donc fait-il nuit à cet instant du récit ? Bon, la première réponse paraît évidente. Les disciples viennent de perdre leur maître. Les autorités l'ont fait exécuter. Il est mort sur une croix. On imagine bien leur chagrin. Il fait nuit sur leur rêve d'un monde meilleur. Et Jean ajoute, ce jour-là, étant donc le soir, ce jour-là. Oui, c'est le troisième jour après la mort du Christ, mais ce jour-là, c'est aussi notre jour, c'est aujourd'hui. Parce que, au-delà des circonstances du récit, de la résurrection, chacun connaît bien cette inquiétude nocturne, un peu comme les enfants qui font des terreurs nocturnes. Ces ténèbres, souvenez-vous du récit de Genèse, ces ténèbres qui planaient à la surface de l'abîme originel. Ces ténèbres n'ont pas été totalement dissipées de la surface de notre existence. Ces temps d'incertitude que nous traversons aujourd'hui intensifient le sentiment d'angoisse. Mais je crois qu'au-delà des circonstances du présent, ces ténèbres font partie de notre condition humaine. Même s'il y a fort heureusement des jours lumineux pour chacun d'entre nous, nous devons le reconnaître, la nuit est là, évoquant la mort ou évoquant aussi l'absurde, l'absence de sens. Cette réalité sombre avec laquelle nous cheminons, bon gré mal gré, contre laquelle nous combattons tout au long de notre vie, il serait vain de la nier et peut-être même dangereux. Il y a donc un peu de tout cela dans cet aujourd'hui obscur qui tombe sur les disciples et sur nous. Mais Jean précise encore quelque chose d'important. Il dit que cet aujourd'hui sombre, c'est aussi le premier jour de la semaine. Et c'est la troisième indication temporelle que nous recevons dans ce début de verset 19. Après ce premier jour de la semaine, avec ce premier jour de la semaine, malgré les ténèbres qui sont là, qui planent sur les disciples, malgré cela, c'est un temps nouveau qui s'ouvre. C'est une page vierge qui commence à s'écrire pour dire quelque chose, pour dire que la vie est plus forte que la mort, que le pardon est plus fort que la faute, que la grâce est plus forte que le jugement, et qu'il faut y croire. Mais malgré ce premier jour de la semaine qui fait poindre à l'horizon l'espérance, il faut bien le reconnaître, les disciples sont mal, ils sont au fond du seau. Et Jean décrit cette déprime du groupe des disciples par une expression qui est très forte. Les portes ayant été fermées. Voilà des disciples qui vivent le confinement du désespoir. La formule employée par Jean est assez déroutante. Il ne dit pas littéralement que les disciples se sont enfermés, ce qui aurait été logique. Il dit que les portes ont été fermées. Alors, c'est vrai que le contexte nous invite à comprendre que les disciples ont choisi de s'enfermer à cause de la peur qu'ils ont de la police religieuse. Ils sont les disciples de celui qui a été exécuté. Mais la formule de Jean nous laisse la possibilité de comprendre aussi que les disciples subissent cet enfermement, comme si quelqu'un avait claqué la porte sur leur peur. Et je trouve que cette situation rejoint bien la nôtre. Nous pouvons nous sentir enfermés dans des situations que nous subissons sans les avoir choisies, ou même suite à de mauvais choix. Quelquefois, nous n'avons même pas conscience de ce qui nous tient prisonniers. Nous subissons en silence un enfermement à double tour. Une enfance traumatisée, une relation toxique, une orientation professionnelle hasardeuse. Quels sont nos enfermements? Notre vie est à l'arrêt, elle n'a aucune saveur, aucun élan, aucune luminosité, nous sommes fait enfermer. Jean précise que les disciples se trouvent là enfermés par la peur des Juifs. Cette précision est importante. Les disciples sont juifs eux-mêmes. Jean l'évangéliste est juif. Jésus est juif. Il n'y a donc pas lieu de trouver dans cette précision une quelconque justification de l'antisémitisme. Le peuple juif n'est pas plus coupable que vous et moi de la mise à mort du Christ sur la croix. C'est l'humanité entière qui porte cette responsabilité. Mais alors, comment comprendre le sens de cette formule de Jean? Les Juifs enfermés dans leur peur, dans la peur des Juifs. Mais je crois qu'on peut trouver là une clé pour comprendre la raison de nos enfermements. Nous sommes souvent plus prisonniers de nous-mêmes que des autres. Nous sommes là enfermés dans nos convictions, dans nos lectures de la Bible, dans notre vision de la société. Nous sommes prisonniers de notre peur de vivre, plus encore que de notre peur de mourir, prisonniers de notre peur de sortir et de respirer un autre air. Il y eut un soir, il y eut ce confinement à double tour et cette peur noué au ventre, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour de la semaine. Le huitième jour, pourrait-on dire, le huitième jour de la création. Et ce jour, c'est le jour où Jésus vint. Nous avons vu dimanche dernier comment Marie de Magdala, aux toutes premières lueurs du jour, était parvenue à dépasser sa peur, à sortir de sa nuit intérieure, de son chagrin, pour aller à la rencontre du Christ et pour devenir la première témoin du ressuscité. Mais la scène que nous avons sous les yeux est très différente. Ici, le confinement, l'enfermement est total. Il rend impossible tout élan de vie, toute espérance, tout déplacement. Les disciples sont figés, pétrifiés, anesthésiés par la peur. Il faut que Jésus vienne à leur rencontre, sinon rien n'est possible. Et je crois que c'est un trait de caractère de Dieu. Il est comme ça, Dieu. Il ne recule pas devant nos fermetures. Il ne recule devant rien pour nous sauver. Son pardon, son amour ne se laisse jamais démoraliser devant nos enfermements, nos résistances et nos blocages. Dieu nous aime. Jean l'écrit ainsi, Jésus vint et se tint au milieu. Jésus vint et se tint au milieu. La question que je pose, c'est au milieu de quoi? Parce que ce n'est pas explicite dans le texte original, il se tint au milieu. Nous entendons au milieu du groupe des disciples, mais ce n'est pas écrit. Jésus se tient au milieu de ses enfermements. Ces enfermements infernaux qui nous ligotent, qui nous aliènent. Il se tient précisément au cœur de tout ce qui nous tient prisonniers, tout ce qui nous prive de liberté, de joie et de paix. C'est là que Jésus se tient. C'est au milieu de tout cela qu'il vient établir sa demeure. Assurer une présence H24, 7/7. Et il nous fait don de l'Esprit Saint pour que plus jamais nous ne soyons enfermés à perpétuité dans nos tombeaux intérieurs, nos solitudes et nos problèmes insurmontables. Et non seulement il se tient au milieu, mais il fait le don d'une parole. Une parole de vie, la paix avec vous. Si l'on s'en tient encore une fois au simple mot du texte, il faudrait lire « paix à vous ». Ce n'est pas « que la paix soit avec vous », c'est la formule consacrée. Ce n'est pas un vœu pieux, une simple parole pour dire « bonjour, shalom, hello, salam alaikum », non. C'est même pas une promesse. C'est paix à vous. C'est un don. La paix est à vous. Ici et maintenant, il faut la saisir par la foi tant que Jésus est là, au milieu. Cette parole a ressuscité les disciples. Le texte de l'Évangile se poursuit ainsi. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « Paix à vous !» Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il est temps pour nous, sœurs et frères, de regarder le point du jour de ce premier jour, de sortir de nos enfermements en laissant Christ se tenir au milieu, au cœur de nos vies, et de laisser la paix transformer nos relations, transformer nos projets, et faire de ce temps de confinement un premier jour de la semaine plein de sa présence. Paix à vous, à chacun de vous. Amen.